France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Nous sommes en Belgique, à la Foire du Livre de Bruxelles, sur le magnifique stand de la RTBF. On célèbre à nouveau la richesse de la francophonie dans un esprit collectif, de l'ambiance, des invités prestigieux et de l'émotion aussi avec le public de Bruxelles. Bonjour à tous. Voici le sommaire de cette nouvelle édition.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Nous sommes avec le dessinateur prodige, culte pour les amateurs de BD, François Skuyten. Il publie deux livres graphiques, l'un inattendu sur son chien disparu et l'autre qui crée l'événement en librairie. Avec son comparse Benoît Peters, qui est aussi avec nous, il rend hommage à Jules Verne avec un nouveau volet des Cités Obscures. David Fuenquinos fait partie des grands invités de cette Foire du Livre de Bruxelles 2024. Pour son nouveau roman, il est avec nous, fidèle parmi les fidèles. Bonjour David.
Bonjour Emmanuel.
Vous aimez les salons, vous, hein?
J'adore les salons, et puis celui de Bruxelles, voilà, il y a beaucoup de monde, c'est très plaisant, et puis c'est l'occasion de, voilà, de vous voir et de faire cette émission avec vous.
Voilà, exactement, c'est l'occasion. Merci d'être
double
là.
Double bonheur.
Double bonheur partagé. Nous recevrons également le prix première, Sébastien Bailly, qui a reçu son prix ici même, jeudi, et nous rendrons hommage au grand poète et écrivain Guy Goffet, qui vient de nous quitter dans une séquence spéciale, avec un moment fort vécu dans cette émission, et avec deux grands auteurs belges, proches de ce magnifique artiste, Jean-Luc Outers et Geneviève Damas. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. Nous avons aussi appris la mort de Maryse Condé, grande écrivaine francophone des Antilles, célébrée dans le monde entier. Elle nous a quittés au soir d'un lundi de Pâques, à l'âge de 90 ans. Son œuvre militante sur les ravages du colonialisme est lue et étudiée dans le monde entier. Sa vie en voyage l'a menée de nombreuses années en Afrique et aux États-Unis, mais elle disait garder en elle sa terre, la Guadeloupe. Confrontée aux nuances des cultures, elle sera une exploratrice des causes qui mènent au rejet des différences. En Afrique, elle vivra un choc culturel déroutant qui va marquer ses livres. Lorsqu'elle publiera La vie sans phare en 2012, elle annoncera avoir probablement écrit le plus universel de ses livres. Elle était venue en parler dans la librairie francophone. On écoute un extrait de cet entretien.
Je crois que les choses ont changé. Je crois que les Antillais étaient mal perçus. Mmh. Par des Africains. Ils arrivaient comme des tout baves, comme des blancs, ouais. Convaincus qu'ils savaient tout, qu'ils allaient tout changer. Et en fait, l'Afrique se refusait à eux, ne voulait pas d'eux et les rejetait un peu.
Est-ce que c'est pour ça, Maryse Condé, que vous ne vous intégrez pas, que vous ne voulez pas apprendre la langue ou endosser les coutumes locales? Vous écrivez à moi un passage assez dur. Vous dites « S'intégrer se résumait-il à modifier superficiellement son apparence, baragouiner des langues? La véritable intégration n'implique-t-elle pas avant tout une adhésion de l'être, une modification spirituelle ?»
Oui, parce que dans tout le pays d'Afrique, on m'a demandé de parler la langue, de changer de coiffure, d'avoir des tresses, de porter un boubou. Je crois que vraiment, pour m'intégrer, pour être aimée, acceptée, devenir une sœur des gens parmi lesquels je vivais, il y avait d'autres critères sur lesquels on pouvait se baser.
Mmh. Et le critère principal, c'est la personnalité, c'est ce qu'on est au fond de soi.
Je crois qu'on peut aimer des gens, aimer un peuple, il est très différent.
Ouais.
Mais le cœur peut être ouvert et disponible. Et ça, personne ne fait jamais attention au cœur.
Alors, il y a des passages terribles, hein, Maryse Condé, dans ce livre-là. Au Ghana, par exemple, on vous accuse à un moment d'espionnage. On vous arrête, vous partez en prison. Vous décrivez cette liberté qui s'échappe, cette dissolution de la personnalité, comme vous la nommez.
Oui.
On vous expulse, vous perdez votre amour, vous perdez votre histoire et vous dites « L'Afrique ne se bornait pas à me rejeter, elle me dénudait. Non seulement elle prenait mon homme, mais elle annihilait mon passé, mes références. En un mot, elle détruisait mon identité. Je n'étais plus rien. »
Oui, j'ai eu l'impression que j'étais rien du tout. Elle me traitait un peu comme une paria.
Ouais.
Elle ne faisait pas du tout attention à mon cœur. une fois de plus mon cœur, ce que je pensais, ce que je sentais, ce que j'imaginais. En fait, j'étais victime d'une injustice terrible. Ouais.
Vous pensez que les refuges se dérobent toujours à un moment, que quand on quitte sa terre natale, elle manque à tout jamais, même si on s'efforce de l'oublier, elle ressurgit?
Un moment arrive où on voit que la terre natale est toujours avec vous. Maintenant où je vis à New York, je sais que la Guadeloupe est avec moi. Je ne cherche plus. Je n'ai pas tellement envie de retourner à Petapietoabasea. C'est avec moi. Le pays est avec moi. Mais pour arriver à cette conscience, il faut du temps.
Marie Scondé, dans la librairie francophone en 2012. Les hommages sont nombreux à travers la francophonie. On adresse bien sûr toutes nos pensées à ses proches. Voici nos libraires. Quatre libraires sont avec nous comme chaque semaine. On commence par la Belgique puisqu'on est à la Foire du Livre de Bruxelles. Bonjour Déborah Damblon, je peux vous toucher ce pull magnifique, très doux. Bonjour Déborah.
C'est bien dire... de se toucher Emmanuel.
Vous pouvez répondre.
Je vous touche aussi.
Vous êtes libraire ici à Bruxelles dans la librairie du Théâtre Le Public. Pour le Canada, on retrouve Josiane Nétourneau de la librairie Pauline à Montréal qui a fait le déplacement aussi. Bonjour Josiane.
Oui mais moi je touche personne. Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un peu plus loin mais vous êtes assortie au bleu de la RTBF. C'est sur ce vrai. Stand magnifique. Magnifique.
J'ai pas fait exprès.
C'est bien d'être là en tout cas. Merci. Merci à vous. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France. Vous êtes hilar aujourd'hui.
Bah, vous m'avez fait beaucoup rire en fait.
Ouais. Libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. En Suisse, c'est Alexandre Dimitrievitch cette semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève dans la librairie Delphica. Vous êtes en forme Alexandre?
Ah ouais, tout à fait.
Bon, il y a intérêt. L'émission va être dense aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Vous interviendrez bien sûr tous les quatre au cours de cette émission. Sur cette musique incroyable qui fait penser à Jules Verne et pour cause. Bonjour Françoise Cayetaine.
Bonjour.
Bonjour Benoît Peters.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous allons parler de deux livres graphiques avec vous. Le premier, Jim, paru chez Rue de Sèvres, rend un hommage vibrant à votre chien. Un livre de dessin et de réflexion sur le lien qui vous unissait. Vous dites l'avoir dessiné pour en faire le deuil. On peut faire ça, faire le deuil de son chien?
Quand on est dépassé par une émotion qu'on n'arrive pas à comprendre, même si on était préparé, physiquement préparé, on sait bien, on voit son chien tout doucement diminuer, et puis 13 années, c'est déjà beaucoup pour un grand chien, et bien quelque part, c'est un arrachement incroyable, c'est une violence qui m'a encore surpris, c'est pas mon premier chien, et là, la seule façon que j'ai eue de réagir, c'était de le dessiner, c'était une façon de le retrouver un peu, de le garder encore un peu avec moi.
Mais vous évoquez une relation invisible et mystérieuse. Vous dites « Jim m'a ouvert le regard, m'a sorti de moi-même, il a agrandi mon monde ».
Oui.
Ça va très loin, François.
Ça va très loin parce que je crois que le rapport avec le monde animal, c'est une façon effectivement d'élargir son espace de pensée. On pense à autre chose déjà qu'à soi-même parce qu'il faut se préoccuper de lui, ce qui est un exercice et c'est une discipline formidable. Aller le promener, c'est sortir de ses activités journalières et c'est se consacrer à des moments complètement à ce monde qui vous ouvre en fait, qui vous ouvre à regarder autrement.
Oui. Alors on va comprendre votre intérêt pour le règne animal, on peut dire ça, votre fascination pour les animaux, puisqu'on va parler du capitaine Nemo dans un instant, d'où cette musique juste avant, mais juste encore un mot sur ce chien, parce que vous êtes venu avec un autre chien là,
oui.
qui s'appelle Ulysse.
Oui.
On peut l'entendre ou pas? Il parle ou pas?
Il est très sage, généralement on se plaint parce qu'il est encore très jeune.
C'est vrai.
On se plaint, mais là il est... Ne le brusquons pas.
Chauffons-le un petit peu peut-être, mais bon, on pourrait faire la première interview avec un chien à la radio.
J'ai pas pu résister après un certain nombre de mois, et ce livre m'a aidé d'ailleurs à faire le deuil. J'ai pas pu résister. J'en regardais les chiens dans la rue, je commençais à avoir un regard lubrique, donc il fallait que je tourne la page, et c'est un plaisir différent, évidemment.
C'est pour ça que c'est difficile de parler de deuil quand on parle des animaux. Et il y a un philosophe qui fait votre préface et qui le dit, ça. Parce qu'on a tendance à pouvoir reprendre un animal tout de suite. C'est vrai que quand on perd un frère, un enfant, un parent, on ne reprend pas quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais chaque chien est est unique.
Ouais.
Il ne s'agit pas de le remplacer au sens comme on le dit là, mais simplement de continuer cette complicité qu'on peut avoir avec un animal, un chat, un chien et beaucoup d'autres, un cheval. C'est tellement intense. Et effectivement, ça touche à des dimensions très, très sensibles, très souterraines, très intimes en fait.
Alors c'était essai parce que le nouveau chien Ulysse est de la même race, hein, je crois.
Oui. Mais pas de la même couleur quand même. Non. J'ai pas poussé le vice.
Un flat coated retriever.
Oui, absolument.
Je sais pas comment on prononce ça, mais c'est ça. Ouais, c'est proche du Terre-Neuve.
Oui.
Enfin, c'est un peu plus fin que le Terre-Neuve.
Certains le comparent parfois au Setter.
Oui, donc c'est vrai. Dire.
Il est très fin, il est très élégant, il est majestueux. Ce sont des chiens qui sont...
Et il adore l'eau, surtout.
Il adore l'eau, oui. Parfois, d'ailleurs, c'est pas toujours facile de le ramener.
Vous le dessinez le jour d'un mariage où il va se baigner et vous êtes en costume, il faut le remonter
Il faut le remonter parce qu'il n'y avait pas effectivement un accès facile. Et là, vous vous faites remarquer et tout le monde constate que vous avez un chien, oui.
En tout cas, ça a garanti votre bonne santé, dites-vous.
Ah oui, c'est l'ami de mon docteur. Il n'y a rien de mieux que de se promener 2 heures par jour, de faire 10 kilomètres par jour. C'est la meilleure discipline pour rester en forme.
Bon, Benoît Peters, vous publiez donc avec François un nouveau volet des Cités Obscures. 14 ans après le dernier en date, rappelez-nous déjà le principe des Cités Obscures. C'est une œuvre magistrale, magnifique, depuis 40 ans déjà.
Et oui, depuis 40 ans, et nous connaissons, François et moi, depuis bien plus longtemps, puisqu'on est des amis d'enfance. Notre collaboration a commencé très tôt. Alors, les Cités Obscures, c'est un peu né de nos passions partagées, de nos passions fusionnées, plutôt du côté littéraire, cinématographique pour moi, du côté architectural, de la dramaturgie pour François. Et donc, c'est un monde parallèle au nôtre.
Voilà,
c'est un monde qui ressemble au nôtre par certains traits. Il y a même des personnages communs, comme le grand architecte Victor Horta, par exemple, qu'on retrouve des deux côtés, et Jules Verne. Et Jules Verne, cette fois-ci, est au cœur du retour du capitaine Nemo.
Vous convoquez le capitaine Nemo avec une nouvelle machine que vous avez inventée, François, le Nautipoulpe. Elle est là aussi, votre fascination pour le monde animal, dont nous venons de parler, parce qu'elle a généré cette envie de poulpe-machine intelligent.
Oui, avec le sculpteur Pierre Mater.
Oui.
C'est vraiment une collaboration entre ces deux disciplines, je dirais, puisque ce Nautipoulpe va exister réellement. Ça va être une sculpture en bronze de 7 mètres de haut, 10 mètres de long. Donc, c'est une fameuse pièce.
Installée à Amiens, dans la ville de Jules Verne.
Oui, et qui passera par Bruxelles, d'ailleurs, avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on avait envie de rendre hommage à Jules Verne, mais d'une façon contemporaine. Et l'hybridité, le rapport entre le monde animal et la machine, et tout ce que ça induit, ça nous semblait être un sujet fort pour montrer à quel point il faut rester visionnaire, comme l'a été Jules Verne.
Alors, les dessins sont incroyables, François Skuyten. Vous vous êtes détaché du monde de la bande dessinée parce que vous dites « je ne veux plus faire de la BD académique ». Donc là, cette fois, vous avez un dessin sur chaque page de droite, sorte de gravure, et en face, le texte de Benoît Peters. Et c'est vrai que c'est sublime parce que ce sont la technique des hachures très fines, très précise, c'est très minutieux comme dessin, vous avez passé des heures.
Oui, d'ailleurs mon éditeur va m'arracher les pages parce que c'est une technique où on a jamais fini, on a toujours envie d'y revenir. Mais c'est aussi une façon de rendre hommage au graveur de Jules Verne, parce que j'ai grandi fasciné par ses livres, qui sont pour moi des livres parfaits en fait.
Et la maison d'édition de l'époque qui illustrait avec ses gravures.
Oui, les fameuses éditions Hetzel, qui sont des objets magnifiques, qui sont des machines à rêve. Et qui pour moi, et pour Benoît aussi d'ailleurs, c'est un peu notre matrice, je dirais, d'imaginaire.
Benoît Peters, c'est une autre façon de faire de la bande dessinée, ce que vous avez fait là. C'est pas vraiment de la BD, c'est un livre graphique. Comment vous le définissez?
La définition de la bande dessinée, c'est beaucoup ouverte. Effectivement, on parle de roman graphique, d'autres parleraient de livre illustré, mais je crois que la dynamique qui traverse notre livre reste celle d'auteur de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une interaction entre le texte et l'image. On n'est pas dans l'illustration, on est dans autre chose. On raconte une histoire par tous les moyens qui se posent à nous. C'est ce que Verne faisait aussi, puisqu'il il déléguait une partie du travail au graveur qui prolongeait son univers et qui ont fait beaucoup pour le rendre mémorable.
Allez, les libraires ont lu ce livre atypique, incroyable. La France avec un passionné de bande dessinée et de dessin. C'est Mathieu Colombe, qu'en pensez-vous ?
Eh ben, vu que je suis pas objectif, je me suis régalé, mais en même temps, très objectivement, bah, visuellement, effectivement, c'est une grosse gifle. En plus, le texte est concis, réfléchi et bourré d'hommages. Et j'aime bien ce paradoxe de s'ancrer dans le réel avec un personnage fictif et que la fiction finisse incarnée de son côté par cette sculpture de Nautilus qui n'est même pas celui que Verne avait inventé au final. Et bon, je sais que Monsieur Scoïten ne veut plus faire de la bande dessinée, mais ce serait bien qu'il continue à en faire comme ça, en fait.
Oui, mais je crois qu'il va continuer. Vu son regard et son sourire, il va continuer. Je le connais un peu, François. Il est parti là-dedans maintenant pendant au moins 10 ans. Le Canada, Josiane Étourneau, séduite ou pas?
Ben Emmanuel, je vais essayer de rivaliser avec vos qualificatifs. Vous avez dit majestueux, vous avez dit, ben moi je dis somptueux. En fait, c'est un livre qui nous offre, j'ai envie de dire, 2 voyages pour le prix d'un. En fait, déjà les illustrations, ben m'ont tracé la voie du ravissement par leur beauté, et le texte, ben je crois, bon, résonnera mieux tout de même chez le lectorat aguerri de l'œuvre de Jules Verne. C'est un texte qui porte un mystère, un onirisme qui titille l'imagination sans aucun doute. Bref, c'est un, je me permettrai de dire, un fichu de bel album qui, jusqu'à la dernière page, partage bien des trésors.
Merci.
Et nous suivons le parcours de Nemo que vous emmenez vers Amiens, donc la ville de Jules Verne. Le personnage de Nemo n'est pas un héros comme les autres, hein, Benoît Peters. Il est sombre, il est guerrier, presque terroriste, dites-vous même.
Oui, c'est un personnage très différent de l'image qu'on a souvent de Jules Verne. Parce qu'au fond, on voit chez Jules Verne la dimension pédagogique, celle que son éditeur souhaitait. Et quand il a créé le Capitaine Nemo, Hetzel, son éditeur, était effrayé. Il disait, c'est un personnage trop noir, trop sombre, trop destructeur. Mais en réalité, c'est le personnage le plus puissant, le plus fort de l'œuvre de Jules Verne. Et nous le montrons évoluant peu à peu de cette appétit de vengeance, qui est en fait un appétit de vengeance anticolonialiste. Le capitaine Nemo, c'est un Indien qui se venge de l'occupant britannique. Mais nous le montrons évoluant peu à peu vers une nouvelle vie, une acceptation, une forme de sagesse.
Oui,
donc notre Nemo à nous est un petit peu plus nuancé. Mais j'aime bien cette force qu'il y a, parce que parfois on réduit Jules Verne à un auteur, je ne vais pas dire lénifiant, mais un peu simple, un peu tout d'une pièce. Or, il y a un imaginaire extraordinairement puissant, il y a un sens du mythe chez Verne qu'il faut retrouver aujourd'hui.
Et dans cet album, Nemo va parcourir des territoires, des lieux de vos précédentes cités obscures. Il y a aussi des machines, des trains, des bâtiments. En fait, toutes les obsessions graphiques de François Scoïten sont là.
Oui, mais chaque livre est une aventure pour nous. Il faut qu'on y retrouve plein de choses. Un sentiment de nécessité, d'urgence, de plaisir. Il faut qu'on y mette comme si c'était le dernier.
Oui.
Mais c'était surtout une façon d'aller jusqu'au bout du noir et blanc, d'aller creuser cette technique du trait, de retrouver vraiment l'essence de la fascination que nous avons eue.
Ouais, vous êtes allé au bout, en tout cas, ça c'est sûr. Il y aura un nouveau volet, je suppose ?
Juste
oui ou non.
Dans l'immédiat, nous transposons ce livre en un spectacle
avec
des amis musiciens. Etc. On va au-delà,
je
il y a
reformule.
La sculpture, mais il y a autre chose.
Allez-vous continuer avec Les Cités Obscures ou pas?
Tous les points d'interrogation
oui
sont
ou non,
ouverts.
Benoît.
Ça, nous ne donnerons jamais de réponse définitive.
Aidez-moi.
Je ne sais pas.
Bon, allez, vous reviendrez quand même. Merci François Scoïten.
Merci
Benoît Peters, vous allez rester avec nous pour l'hommage à Guy Goffet tout à l'heure. Les Cités Obscures, le retour du capitaine Nemo est paru chez Casterman. À noter aussi, Benoît, le livre « État d'âme » qui dresse le portrait de personnalités du monde francophone qui vient de paraître chez Impression Nouvelle, votre maison d'édition, Benoît Peters. Il est signé Francis Van de Woestein. Merci à vous. À suivre le nouveau roman de David Fuenquinos ici à la Foire du Livre de Bruxelles et notre hommage à Guy Goffet. Ce sera après l'artiste martiniquaise Meryl dans la librairie francophone.
La seule fois où je suis derrière, c'est quand y'a la famille d'abord. De l'eau sur de l'encre à sa lila. Quand on a trimé d'abord, faut donner la compte. Appel de farfauter qu'à la droite. On rentre à 10, on ne paie pas la boîte. La taille est chère, on paie pas à 4. Mais c'est mes gosses, mais je n'ai pas la garde. Du coup, ils veulent me terminer. Ils n'ont eu droit à aucune attention. Combien de liens j'ai déliés. Y'a toujours la salope qui chante ma chanson. Elle me donne 1, 2, 3, 4 tibos. Je laisse rien pour eux, je prends tout, je fais la peau. Ils paieront jamais mes impôts, vrai CEO. Ce sera plus même prix au prochain mercato. Chez nous, on ne faisait pas de vœux. Cette étoile file à contre-son. Si je cœur était un choix du feu. Commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant, dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars. Chez nous, on ne faisait pas de vœux. Cette étoile file à contre-son. Si je cœur était un choix du feu. Commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant, dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars. Les problèmes infinis sont majeurs, dans son mauvais héritage. J'aime pas les paiements pas à jour, pas dans le bonheur qu'on apprend à nager. Dans quelques jours, quel que soit le prix, faut bien que tu comprennes, ça sera pas cher. Faut construire les murs, j'empile caché. Si tu m'entends plus, vérifie 4G. Puis 2000 feux, je porte du vrai. C'est avec ce papier que ces larmes, j'ai sort. Comme on se vient, tout le soleil se lève. Avec tes défaites, de chasse rêve. Elle me donne un, deux, trois, quatre tibos. Je laisse rien pour eux, je prends tout, je fais la cour. Ils paieront jamais mes impôts, vrai CEO. Ce sera plus même prix au prochain mercato. Chez nous, on ne faisait pas de feu. Les étoiles filent à contre-son. Si le cœur était un choix du feu. Commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars. Chez nous, on ne faisait pas de feu. Les étoiles filent à contre-son. Si le cœur était un choix du feu. Commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars.
L'artiste hip-hop Meryl, originaire de la Martinique.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
La chronique des libraires depuis la foire du livre de Bruxelles, un coup de gueule en Belgique, Déborah Dormelon, elle fait une tête.
Bah oui.
Vous n'imaginez même pas, allez-y.
Là, vous la voyez, ma tête.
Ah oui, je la vois. Oui.
Emmanuel, vous avez déambulé dans le salon.
Oui.
Et vous avez vu des changements par rapport à d'habitude ?
C'est-à-dire ?
Ben, il n'y a pas vraiment de changement. Et pourtant, vous savez, j'ai fait plusieurs chroniques en disant que l'édition belge ne se portait pas bien, qu'il y avait plein d'éditeurs qui avaient disparu, enfin plusieurs éditeurs qui avaient disparu. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque ? Rien. Ça veut bien dire qu'ils n'ont pas de place. Et si on ne leur donne pas de place, après qu'on s'étonne qu'ils disparaissent dans le silence.
Hmm ? Voilà, c'est courageux de dire ça en pleine foire du livre de Bruxelles. Vous pouvez l'applaudir parce que, voilà, c'est vrai, il faut soutenir les éditeurs belges. Ils ne sont pas assez présents. On a face à nous toutes les grandes maisons d'édition françaises, hein, juste en face de nous, à portée de main quasiment. Un coup de cœur en France, Mathieu Colombe.
Oui, alors je sais qu'on en parle de partout depuis une semaine, mais l'adaptation de Larsenet du roman La Route de Cormac McCarthy est tellement magistrale que j'étais obligé d'en parler aujourd'hui. Alors déjà parce que il y a un travail sur le trait de Larsenet qui est remarquable. Il est méconnaissable, c'est léché, c'est détaillé sur les visages. On a une espèce de transfiguration. Et il y a aussi la vision de Manuel Larsenet, les détails qu'il voit, son approche assez personnelle en fait du scénario. Je pense qu'il faut vraiment jeter un œil sur cette magnifique perle noire parce que c'est un vrai cauchemar.
La Route de Cormac McCarthy, donc adaptée par Manu Larsenet aux éditions d'Argo, et ça s'appelle Vivre. Merci Mathieu. Sur cette musique de France Gall, citée dans le nouveau roman de David Fuenquinos. On ne pouvait pas s'empêcher de diffuser France Gall, même si c'est anecdotique hein, dans votre livre, David. Mais il y a France Gall.
Oui, puis c'est toujours un plaisir de l'entendre, mais c'est surtout que quand on écoute une musique qui est importante pour nous, elle nous propulse directement vers des souvenirs importants, et c'est le cas pour mon personnage qui, l'entend, et dès qu'il l'entend, il est connecté à un souvenir assez douloureux.
Alors, votre nouveau roman, La Vie Heureuse, raconte la vie d'un homme en pleine réussite professionnelle pour une grande chaîne de magasins de sport qui se fait débaucher par une copine du lycée qui travaille pour le gouvernement français. Elle lui propose de tout quitter pour se risquer à travailler dans l'entourage d'un ministre, et il semblerait qu'il n'y ait absolument rien à gagner pour lui.
Oui, en tout cas, ça arrive à un moment donné de sa vie où il a l'impression d'avoir fait le tour. C'est vrai qu'il travaille chez Decathlon et
oui,
alors, il en a marre que tout le monde
d'autres
lui dise,
marques, du coup, Sport 2000, Intersport, voilà. Oui.
Pardon, je suis désolé.
Allez-y, je vous en prie.
Mais c'est vrai qu'il en a marre que tout le monde lui dise à fond la forme alors qu'il ne va pas bien. Et c'est vrai qu'il y a cette proposition un peu étrange de cette fille qu'il a vaguement connue au lycée. Et il va la suivre et il va commencer une aventure à la fois professionnelle et intime très forte.
Alors il a 40 ans, il a un fils de 11 ans, il accepte malgré une baisse de salaire ce boulot-là. Un an se passe plutôt bien, il va partir à Séoul avec elle, préparer la venue du ministre. Et à Séoul, ça se passe pas très bien, en tout cas déjà dans l'avion. En fait, il est pas fait pour ce boulot-là du tout parce qu'il a peur de l'avion. Vous décrivez très bien d'ailleurs les phobies de l'avion, je sais pas si c'est du vécu, David, mais...
Oui, c'est la partie autobiographique du...
Ah, c'est ça. Parce que le vécu dans les turbulences, c'est exactement ça.
Pour c'est ceux exactement qui ont peur. Ça, effectivement. Mmh. En tout cas, oui, là, cette tentation, c'est quand même très excitant comme travail et ça va lui permettre de voyager beaucoup. Et c'est vrai que j'avais besoin que mon roman, à un moment donné, se déroule à Séoul. C'est aussi pour ça que voilà, j'ai créé cette histoire de commerce extérieur.
Alors, on va y venir justement à Séoul parce qu'il y a une originalité. Hein, il y en a plein à Séoul, mais notamment celle que vous avez relevée. Cet homme-là, il est, on peut dire, un peu perdu dans sa vie parce qu'il ne voit pas assez son fils, parce qu'il est en manque de son affection, parce qu'il a un problème relationnel avec sa mère aussi, avec
ses parents. Oui, puis il est traversé par la culpabilité. On comprend plus tard dans le livre pourquoi, effectivement, il a ce sentiment-là qui est très, très difficile et très, très lourd à porter. C'est un livre qui parle beaucoup de la réinvention de soi-même. En tout cas, il va devoir prendre des décisions pour pouvoir avoir une seconde partie de vie peut-être plus propice à l'épanouissement et à la vie heureuse.
À la vie heureuse, oui. Oui, c'est le titre du livre.
J'ai d'une manière extrêmement discrète rappelé le nom du,
oui, c'est ça, du livre. Aux éditions
Gallimard.
Oui, c'est ça. Vous écrivez une phrase très dure, mais très juste, David Fuenchino. C'est le personnage qui le dit. À un moment, il dit « Aucune obligation morale ne vous impose d'aimer vos parents. »
Oui, c'est vrai que lui, en tout cas, enfin, mes deux personnages principaux ont des problématiques et lui... C'est lié effectivement notamment à sa mère qui lui fait porter le poids de la culpabilité d'un événement passé. Et c'est vrai que pendant des années, il cherche à avoir cette approbation de l'affection maternelle. Et puis, il se rend compte que non seulement c'est une impasse, ça le brutalise. Et au bout d'un moment, effectivement, il peut se dire qu'il n'y a pas d'obligation à avoir cette relation-là. Et si elle n'est pas réciproque, autant l'abandonner. Mmh. Mais on n'abandonne jamais. On n'est jamais rassasié de l'amour de ses parents. Et c'est vrai qu'il va, à un moment donné, trouver la solution pour reconnecter avec sa mère.
Avant de raconter un incroyable épisode à Séoul qui va bouleverser sa vie, on va donner la parole à nos libraires qui ont lu votre roman, David, qui sont partagés, je crois, le Canada, Josiane Letourneau.
Moi, j'ai trouvé, David Fuenchino, que vous posiez à travers votre personnage et votre roman des questions fondamentales sur, évidemment, un monde du travail qui nous avale. J'aurais, par contre, aimé me sentir davantage investi émotionnellement dans ma lecture. J'avais l'impression, bizarrement, des fois, d'être dans une posture très trop observatrice. Mais je pense que beaucoup de gens vont se voir en votre Éric. J'espère.
Mais je pense que vous êtes très heureuse dans la vie. Et donc... Mais en tout cas, je comprends tout à fait ce qui me touche beaucoup à travers ce que vous venez de dire et d'une manière générale par rapport au retour que je peux avoir des lecteurs et des lectrices, c'est que c'est un roman qui vous propulse dans le questionnement de votre propre épanouissement et donc selon ce qu'on vit aux différents moments voilà, de notre existence, je pense qu'on est plus ou moins touché, en tout cas on est plus ou moins en adéquation avec, avec la traversée des personnages.
On peut se projeter, oui, c'est vrai.
Et c'est vrai que...
Bah, c'est souvent le cas dans vos livres, hein, David. Hein.
Oui, oui, c'est, mais particulièrement sur ce livre, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi un rapport à la mort qui est très important dans le livre.
On y arrive, juste après Alexandre Dimitrievitch, en Suisse, qui veut réagir. Alexandre.
Oui, voilà, moi je suis un petit peu mitigé. J'ai pas vraiment accroché à l'arc narratif que j'ai trouvé un peu prévisible par endroits. Et je me suis malheureusement pas senti concerné tout à fait par la trajectoire de vos personnages. À vrai dire, moi, mon problème, c'est que j'ai pas vraiment su vers qui m'accrocher pour mettre un sens personnel à cette histoire. Bon, par contre, je dois dire que la découverte de ce rituel coréen m'a beaucoup plu. Il y avait là un peu de psychomagie, mais son importation sur le sol français et la success story qui en découle m'a un peu moins emballé. Bon, ça arrive.
Voilà. Je suis hyper déçu parce que moi j'adore la Suisse. Heureusement, je suis réfugié ici à Bruxelles.
Il est très loin de la quarantaine en plus, Alexandre. Mais... Donc ça joue peut-être pour rebondir sur ce que
moi,
vous disiez tout à l'heure.
J'ai la chance d'être beaucoup lu et c'est tout à fait normal que chacun ait son ressenti et son intimité par rapport à des histoires. Et il y a encore une fois aussi l'idée qu'on peut ou pas se reconnaître dans un livre.
Alors justement, il parlait d'une curiosité à Séoul. Il va arriver dans une boutique plutôt atypique parce qu'on lui propose de se confronter à sa propre mort. Et ça existe.
Oui, ça existe. On me pose beaucoup la question de savoir si ça existe. On peut trouver très facilement des images sur Internet. Et c'est vrai que c'est le point de départ de mon livre. Quand j'ai découvert ce rituel qui m'a absolument fasciné. Il faut imaginer que ça devient un véritable phénomène en Corée du Sud et notamment à Séoul.
Alors racontez-le.
On parle d'un pays avec beaucoup de pression sociale, un taux de suicide très important, et donc ce rituel consiste à vivre physiquement son enterrement, c'est-à-dire, imaginez, vous Emmanuel, vous êtes devant votre cercueil avec votre photo, votre nom. Oui, alors il y a beaucoup de gens ici qui font la tête que vous êtes en train de faire, qu'on voit pas à la radio, mais
bah, quand
il y a
on
ce
est hypochondriaque
côté extrêmement
anxieux.
Ah oui, alors en plus c'est vrai que
je peux pas.
On referme le couvercle sur vous. Hein.
Ah oui, carrément.
Alors sachez que c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de faire le rituel, et c'est vrai que ceux qui le font, c'est extrêmement bénéfique. Les gens ont le sentiment, en se confrontant à la mort, d'avoir un rapport différent, plus apaisé après à la vie, et c'est vrai que c'est une thérapie très très importante, une sorte de thérapie de choc. Vous restez pendant une heure dans l'obscurité, le silence, l'occasion d'une manière peut-être extrême de faire un point sur votre vie. Moi j'ai eu une expérience de mort à l'âge de 16 ans, et donc ça me parle particulièrement. Je sais que quand on est confronté à la gravité, à la mort d'une certaine manière, c'est vrai qu'on peut après avoir un rapport peut-être plus sensible, ou en tout cas qui nous propulse vers la beauté.
Oui, vous dites effectivement que à ce moment-là de votre vie, vous avez vécu une sorte de mort imminente.
Oui, moi je l'ai vécu à 16 ans, c'est aussi pour ça que ce rituel m'a incroyablement parlé.
Et vous êtes revenu différent.
Totalement différent, mais comme tous les gens qui ont eu cette expérience de mort imminente, on revient animé d'une seconde personnalité, d'une seconde vie. Moi j'ai eu le sentiment à ce moment-là, alors que j'étais pas issu d'un milieu culturel, d'avoir été déverrouillé, d'avoir été une nouvelle personne, animée par la littérature, la beauté, la musique. Et c'est vrai que je me suis mis à ce moment-là à lire, à écrire d'une manière folle et boulimique. Ça ne m'a jamais quitté. Mmh. Et d'une certaine manière, regarder la mort droit dans les yeux, ça change profondément votre rapport à la vie. Et c'est vrai qu'en Corée, non seulement c'est un rituel, mais vous savez que beaucoup d'entreprises proposent à leurs salariés de vivre, voilà, ils proposent des tickets restaurants et le rituel, c'est un package.
Vous l'avez expérimenté ou pas?
Alors non, parce que j'ai ce rapport intime à la mort qui fait que j'ai pas eu le besoin.
Ouais, voilà,
j'ai fait des photos pour un magazine, effectivement, dans un cercueil. J'ai plutôt bien aimé, et là, je vais faire un documentaire. Mais pour moi, c'est pas du tout anxiogène. Et d'ailleurs, je parle à un moment donné dans mon livre de certains pays comme le Mexique où on fête les morts, les squelettes sont colorés, on nous fait des cadeaux aux morts. Ce rapport décomplexé, il faut intégrer cette notion en permanence pour pouvoir aussi avoir un rapport différent à la vie.
Voilà, tout quitter sans se soucier de rien, c'est aussi le sujet de votre livre, David Fuenquinos. Quitter comme ça sa vie et décider à un moment de la prendre en main et de penser à soi. Vous êtes l'un des invités de cette foire du livre. Vous aimez les séances de signature? Comment ça se passe pour vous, tiens?
Alors j'aime beaucoup ça, c'est vrai, d'alterner des moments d'écriture et puis avoir la chance de pouvoir rencontrer les lecteurs. C'est ce que vous allez faire avec votre livre qui vient de sortir aussi.
Oui.
Emmanuel, vous êtes auteur aussi.
Oui, alors ça, donc, on n'a pas le droit de le dire dans cette émission, mais je vous remercie.
Mais voilà,
oui.
Non, mais ce sont des moments. Voilà, quand on a écrit un livre et d'avoir la chance de pouvoir le partager avec les lecteurs, surtout sur ce livre-là, La vie heureuse, qui parle de mort, qui traverse des questions existentielles.
Il y a un échange avec le lecteur.
C'est très très fort. C'est vrai que c'est un livre qui a un accueil jusqu'à présent assez bouleversant pour moi et qui me permet d'échanger sur parfois en quelques secondes, quelques minutes, des intimités.
Voilà, il y a une queue énorme. Je ne sais pas qui est en face de nous, mais sur le stand Hachette, il y a un auteur, un de vos collègues qui signe avec beaucoup de monde.
Je ne comprends pas, pourtant je ne signe pas encore.
C'est ça, c'est étonnant. Bon, merci David Fuenquinos. Vous pouvez applaudir David Fuenquinos dans la librairie francophone. La vie heureuse, paru chez Gallimard. Vous restez avec nous, nous allons évoquer Guy Goffet, dont nous avons appris avec une immense tristesse la disparition le week-end dernier. On rend hommage au grand poète belge Guy Goffet avec nos invités et deux grands écrivains belges qui vont nous rejoindre. Le temps d'écouter l'artiste bruxellois Noé Préchoff dans la librairie francophone.
Tous les brasiers possibles qui réinventent l'âme, je n'en ai pas fini de leur courir après. De plaines en refuge et de voiles en rame, j'avance au bord du gouffre et je trace discret. Le passé ne passe pas et ça me va très bien. L'avenir me poursuit en désir par millions. Je navigue effondré entre hier et demain, en hurlant dans le vent mes doutes à l'unisson. À force de me chercher dans les branches, de me chercher dans les blés, chercher sur tes hanches, je vais me trouver. À force de me chercher sur les planches, de me chercher au ciné, dans l'ombre et la revanche, je vais me trouver. tous les brasiers possibles qui réinventent l'âme. Je n'en ai pas fini de leur sauter dedans. Mes sanglots font rire, mes feintes font leur gamme. Face à la vallée, est-ce que tu me comprends? J'ai longé tant de murs, esquivé mon reflet. Affronté le silence et perdu le contact. Je ne crois qu'à l'aventure de bas-fonds en sommet. Le vertige est pour moi la seule science exacte. À force de me chercher dans les branches, de me chercher dans les blés, de me chercher sur tes hanches, je vais me trouver. À force de me chercher sur les planches, de me chercher au ciné, dans l'ombre et la revanche, je vais me trouver. Pas la force du vide, la force de l'ennui, quand y'a que l'étoile qui guide, que la lune qui conduit. Par la force des poèmes et d'un amour suprême, la force des nuits noires, d'une larme sur un boulevard. La force des nuits blanches, la force de tes hanches, des nappes arrachées, d'une photo retrouvée. Par la force du rêve, tu vois, je me relève.
Le nouveau titre de Noé Préchoff avec À Force.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La semaine est rude avec Maryse Condé. C'est un autre grand auteur qui nous a quittés brutalement, sans que l'on s'y attende, tant cet homme était lumineux, espiègle et généreux. Guy Goffet, c'est le genre d'auteur que l'on a envie de voir et de revoir. Son œuvre poétique est une référence ici en Belgique et partout dans la francophonie. Poète, romancier et éditeur, il a aussi porté de nouvelles voix belges, toujours dans la bienveillance et la transmission. Publié par Gallimard, il a fait rayonner ses mots dans les cercles les plus avisés, mais aussi auprès du grand public et de la jeunesse. Son roman autobiographique « Géronimo a mal au dos » sur ses relations difficiles avec son père nous avait bouleversés. Lui aussi était à fleur de peau pour en parler. Il nous avait accordé sa confiance et s'était livré comme jamais à ce micro. En voici un extrait.
Vous savez, quand les êtres meurent, on commence à voir ce qu'ils étaient et avoir des remords parce qu'on ne leur a pas donné ce qu'on voulait leur donner, et des regrets parce que on ne leur a pas dit ce qu'on aurait voulu leur dire. Je ne pouvais pas concevoir que mon père ait pu dire « je t'aime » un jour à une femme.
Il ne l'a jamais dit ?
Mais je pense que si. J'ai découvert depuis sa mort, bien sûr, on règle les affaires de succession, et tout à coup on s'aperçoit, mais ça c'est tout nouveau, le roman était sorti, et je ne peux pas y croire. Trouver des cartes postales où mon père déclare à ma mère sa flamme comme un adolescent avec des mains chéries, je t'embrasse, ma petite Mimi, mon amour, ma douloureuse, ma secrète, mon aimée. Mais on est... Moi, je suis en pleurs parce que je ne peux pas comprendre. C'est à l'opposé du personnage que j'ai connu. Je n'ai connu que quelqu'un de violent, qui me frappait avec constance, sinon avec ferveur.
Des gifles, surtout. Plus que ça ?
Des gifles, disons des gifles. D'accord. Puis il est mort. Il y a des choses que...
Oui. Qu'on garde.
Oui.
En tout cas, ce père avait peur de manquer. Vous racontez comme ça qu'il s'est consacré au labeur, à l'économie. Il disait qu'on n'était pas sur Terre pour s'amuser.
Oui.
C'est dur pour un enfant d'entendre ça, non ?
On était sur Terre pour travailler, j'ai travaillé. Je n'ai pas connu, par exemple, le goût des vacances scolaires avant l'âge de 24 ans.
Ah oui, hors scolarité alors.
Hors scolarité.
L'été, vous avez connu l'été en fait.
Je connaissais
l'ambiance
l'été.
L'ambiance de l'été.
Voilà, l'été je le passais sur un chantier.
Oui. Comme terrassier. Mais à la mort de son père, Guy Goffet, on culpabilise dans ce cas, quand il a été distant, que soi-même on a pris ses distances, ou est-ce qu'on se dit qu'on s'est simplement manqué, qu'on est passé l'un à côté de l'autre ?
On a manqué beaucoup de choses, en tout cas. On a manqué beaucoup de choses. Enfin, j'aurais voulu lui dire « je t'aime » et j'aurais voulu qu'il me le dise. On a besoin des mots. On a besoin de les entendre. On n'a pas seulement besoin de paroles rudes. Je crois qu'il s'est exprimé à la fin quand il a dit des choses, mais il le disait aux autres. Mais je n'ai pas raconté les dernières scènes. Bien sûr, je ne pouvais pas parce que j'ai dû m'interrompre. Mmh. Ça faisait trop mal. Voilà.
Comment on peut s'interrompre à la lecture? Je vais vous avouer quelque chose, Guy. Moi, je me suis arrêté. 10 pages avant la fin, je me suis arrêté.
Oui. Mais je trouve pas que ce soit un livre triste. Je trouve que c'est un livre essentiel. Enfin, c'est me jeter beaucoup de fleurs que de dire cela. Mais j'ai le sentiment que avoir les réponses de tous les auditeurs et de tous ceux qui me lisent, que les gens ont vécu cela. Ils ont vécu la chose, la même chose. Non pas seulement les gens de ma génération, mais d'autres personnes, des plus jeunes, disent le rapport des fils au père est toujours difficile. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai dit quelque chose pour les autres.
Et surtout, vous rendez un hommage incroyable.
Mais je le ressuscite, mon
votre père, voilà, qui n'aimait pas les livres, qui n'aimait pas lire, il vous confisque un livre, d'ailleurs, vous le racontez. Votre plus beau livre, Guy Goffet, c'est sans doute celui-ci. Et c'est celui sur votre père.
Et il lui est dédié.
Voilà. Guy Goffet dans la librairie francophone au sujet de ce roman Geronimo à mal au dos. Guy Goffet qui nous a donc quitté. On est très émus ici avec nous deux grands écrivains belges, Jean-Luc Outers et Geneviève Dama. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Vous êtes revenu des obsèques spécialement pour participer à cette émission. Merci, merci pour lui. Geneviève, vous dites que Guy a changé votre vie.
Ben, je lui disais que c'était l'éditeur de ma vie. Je pense que... Ben voilà, il a vu quelque chose en moi et il a vraiment accompagné. Il était à la fois ferme et bienveillant et laissant plein de temps pour les questions, prenant du temps pour expliquer ce qui n'allait pas et pourquoi, passant du temps avec moi, mais parfois des après-midi entiers pour parler de littérature, me donnant une foule de livres. Je ne quittais jamais son bureau sans deux grands sacs où il me disait « prends ça, prends ça, prends ça ». Ouais, puis il était, quand on marchait avec lui au travers de la maison... d'édition, Gallimard, il disait bonjour à tout le monde. Il parlait de la même manière à la personne chargée de l'entretien, ou à Antoine Gallimard. Il avait un regard pour tout, alors que certains écrivains dans cette maison ne voient plus tout le monde. Et voilà, c'était un homme profondément bon, oui, confiant, joyeux.
Jean-Luc Outers, quel genre de poète était Guy Goffet?
Guy Goffet, je crois que c'était d'abord un poète de la simplicité. En fait, il utilisait les mots de tous les jours. Je crois qu'il y a un recueil qui résume assez bien, finalement, sa poétique. Ça s'appelle « Petit rien pour jour absolu ». C'est-à-dire qu'il parlait des choses simples, voilà, des plantes, d'un crayon. Il connaissait tous les noms des pommes, toutes les variétés de pommes. Et tout d'un coup, sous sa plume, ça devenait beau. En fait, sa langue transformait ses petits riens en beauté.
Et admirateur d'Henri Michaud aussi.
Oui, voilà.
Né à Namur comme lui. Et ils avaient ce point commun, non pas d'expression, parce qu'Henri Michaud, lui, ne voulait pas communiquer avec le public et avec les médias, contrairement à Guy Goffet. Mais le point commun, c'était une modestie exacerbée à propos de leurs propres œuvres.
Oui, mais c'est étrange parce qu'on a fait donc cette expérience commune. Donc j'ai publié un livre qui s'appelle Donc ces noms, qui sont donc toutes les lettres de refus de Henri Michaud. Et quand il a appris la chose chez Gallimard, Guy Goffet, qui était quand même un ami en plus, a voulu à tout prix en être l'éditeur et suivre le livre. On a vraiment collaboré pendant comme ça un an et c'était une belle partie de rigolade en plus. On s'est bien amusé avec Michaud, mais alors je voudrais dire quelque chose en plus qui le caractérise en tant qu'écrivain et poète, c'est que c'est vraiment un poète de l'altérité. Il avait autour de lui une sorte de monde littéraire.
Guy Goffet avait aussi un côté espiègle, vous allez l'entendre dans un instant, presque fantasque, mais son écriture était très incarnée, très précise, Geneviève Dama. La fantaisie, oui, mais avec panache.
Oui, flamboyant. Et en même temps, comme disait Jean-Luc, il avait l'art d'amener la lumière, en fait. Et donc, effectivement, je me souviens de lui très drôle dans les couloirs de Gallimard. Et à la fois, au moment où il fallait régler le verbe, on réglait le verbe. Je me souviens qu'un jour, il m'a appelé, il m'a dit... Geneviève, je voudrais te parler de ta quatrième de couverture. J'ai dit, ok Guy, il m'a dit, ça ne va pas du tout. Il n'y a rien qui tient. Et donc voilà, et c'était le laminage en règle, mais bienveillant, mais on n'allait pas céder. Il aimait et châtiait.
Il était avec nous l'an passé pour le Printemps des Poètes avec la Québécoise Hélène Dorion. Il venait de publier un recueil de poèmes sur les rues de Paris. Vous vous souvenez de ça, Jean-Luc Outer?
Oui, bien sûr. Oui.
Paris à ma porte, dans la Blanche d'ailleurs, chez Gallimard. Et il avait adapté la chanson Pirouette Cacahuète. Oui. À sa façon, bien sûr, et j'avais réussi à le faire chanter. Écoutez.
Il était dans mon quartier, pirouette, pirouette, dans ce quartier singulier, une rue fort mal embouchée, une rue fort mal embouchée. J'ai plus de voix.
Elle avait un joli nom, pirouette, pirouette,
un nom de colimaçon, mais de triste fréquentation,
mais de triste fréquentation.
Elle conduisait au hall, pirouette, pirouette, comme on conduirait au bal, un beau lot de mauvais garçons, un beau lot de mauvais garçons.
Ben c'est bien.
Bravo.
Bravo. Bravo. C'est la première fois que je chante dans cette émission en plus.
Moi aussi. Franchement, bravo. J'ai pas la voix d'un chanteur.
Guy Goffet, incroyable Guy Goffet, Geneviève Dama.
Vous allez nous faire pleurer.
Ouais, c'est vrai qu'on a les larmes aux yeux, vraiment. Voilà, entre la fantaisie et l'émotion, il explorait toutes les sensations, tous les sentiments. Peut-être malgré lui, parfois, il ne calculait pas, Guy, il se laissait porter, Jean-Luc Outer.
Oui, c'est vrai, il se laissait plutôt glisser au fil de l'eau. Tout à l'heure, donc j'étais à l'enterrement de Guy, c'était un petit village où il vit qui s'appelle La Cuisine. C'est assez étonnant parce que lui... qui a écrit un livre « Éloge pour une cuisine de province oui, », oui. Ça lui va bien. C'était surtout un public rural qui était à cet enterrement. Et alors, on a distribué à tous les participants un poème de la vie promise. J'avais envie de vous lire la première...
Allez-y, on va terminer avec ça. Juste donner un mot à David Fuenquinos et Benoît Peters qui l'ont connu. Benoît.
Oui, moi j'ai commencé à le lire par Éloge pour une cuisine de province, qui est une poésie qui parle à chacun, qui est extrêmement quotidienne. Et puis j'ai continué avec des proses magnifiques, parce que c'est vraiment un poète qui reste poète en prose. Je pense notamment à ce très beau livre sur Marthe Bonnard, « Elle, par bonheur, est toujours nue », et le magnifique livre aussi sur Verlaine, d'ardoise et de pluie.
Voilà, à découvrir dans l'œuvre de Guy Goffet. David Fuenquinos.
Ben, votre hommage était très émouvant. Parfois, quand les gens disparaissent, on a tendance à faire une sorte d'éloge un peu excessif. Là, c'était exactement Guy Goffet, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait la malice en permanence. Moi, j'ai pas travaillé avec lui, mais c'était, quand j'ai publié mon premier roman chez Gallimard, un homme d'une bienveillance et d'une délicatesse extraordinaire. Et à chaque fois, c'est vrai que partout, chez Gallimard et même ailleurs, c'est vrai que tous les gens qui l'ont rencontré ont un souvenir et garderont en mémoire. Et maintenant aussi, voilà, j'espère qu'il sera lu et beaucoup lu.
Oui, oui. On termine avec cet extrait de poème, Jean-Luc Outers.
Oui, donc c'est le premier poème de La vie promise. Je me disais aussi, vivre est autre chose que cet oubli du temps qui passe et des ravages, de l'amour et de l'usure, ce que nous faisons du matin à la nuit, fendre la mer.
Guy Goffet, qu'on peut applaudir tous ici. On pense fort à lui. Merci à vous. Merci Jean-Luc Outers. Merci Geneviève. Les livres de Guy Goffet sont édités par Gallimard. Une anthologie de ses poèmes est parue chez Espace Nord l'an passé. Merci à vous.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le prix premier RTBF a été décerné à Sébastien Bailly pour son premier roman « Parfois l'homme » aux éditions Le Tripode. Déborah Damblon, vous avez participé au jury de présélection de ce prix, mais pas au jury final, qui s'est bien sûr décidé en toute indépendance. Pourquoi avez-vous proposé ce roman au jury d'abord ?
Eh bien parce qu'il sort du lot. C'est 110 portraits, brefs, récits brefs qui racontent l'homme du début de sa vie, de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, ça va plaire à David, jusqu'à la mort. Et puis on passe par les étapes de la vie d'un homme. Et donc il y a des moments qui sont très drôles, il y a des moments qui sont touchants, il y a des moments qui sont irritants, il y a des moments où on a envie de les consoler, de les prendre sur les genoux et de leur refaire les lacets. Et puis pour moi qui suis une fille, ben, j'ai vécu pendant 110 récits dans l'ombre d'un homme, à l'intérieur d'un homme, et ça, c'était vraiment très intéressant.
Bonjour Sébastien Bailly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, félicitations. Vous avez grandi à Rouen, en France, vous y vivez toujours. Vous êtes ancien journaliste, et effectivement, ces chapitres sont souvent hilarants, avec tous les destins possibles d'un homme moderne, de sa naissance à sa mort. Et Déborah, on vous a laissé la main pour cette séquence. Vous avez une question.
Tout ça pour moi.
Pour Sébastien.
Donc vous le dites même dans la quatrième de couverture, l'homme a entendu beaucoup, souvent par sa mère ou par d'autres, l'histoire de sa naissance. Ben c'est quoi l'histoire de votre naissance?
C'est très très personnel et je ne la raconte pas dans le livre.
C'est bien pour ça.
Oui, bien sûr. Mais c'est une naissance assez banale, rien d'extraordinaire. Juste mon poids, 2,9 kg. On va lui donner un peu plus à manger parce qu'il faut qu'il grandisse plus vite et c'est tout. Mais on a tous nos récits comme ça, nos récits, les récits sur lesquels on s'appuie et qui commencent à construire notre identité. Donc effectivement, c'est le premier chapitre. Comment on est et comment on nous le raconte. Après.
Et vous vouliez faire un roman d'aventure, il paraît.
Oui.
Et vous dites, l'histoire de l'homme, l'histoire du mal, c'est une aventure.
L'aventure aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est se lever le matin et réussir à tenir jusqu'au soir. C'est plus rarement, et on parlait de Jules Verne sur ce plateau tout à l'heure, c'est plus rarement aller de la Terre à la Lune aujourd'hui. En tout cas, ça concerne moins de monde. Donc notre aventure individuelle, c'est comment on va faire avec ce qu'on a pour tenir du matin jusqu'au soir. Et c'est ça que je raconte.
Déborah.
Alors, vous parlez de l'homme. Vous parlez de l'homme, mais de l'extérieur. Vous dites l'homme ci, l'homme ça. Alors, moi, j'avais envie de savoir, si vous lui parlez à l'homme, ou si vous vous parlez à vous, ou peut-être à Emmanuel, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire vraiment?
Laissez-moi en dehors de tout ça, merci.
Emmanuel.
Qu'avez-vous envie de vous dire à vous, Sébastien?
Ce que je me dirais à moi-même, mais vas-y, continue. Ce que j'ai envie de me dire là, maintenant, à moi-même, c'est vas-y, continue. Il y a ce premier roman, j'ai envie du deuxième, j'ai envie du troisième. Donc ce que je me dirais là, c'est ça.
Eh bien, continuez. Merci beaucoup, Sébastien Bailly. Félicitations, vous êtes le prix première 2024, remis ici à la Foire du Livre de Bruxelles. Parfois l'homme est paru au Tripode. La chronique des libraires, vite, vite, seconde partie, avec un coup de cœur en Suisse, Alexandre Dimitrievitch.
Oui, j'ai été complètement happé par la lecture du roman Une fissure en tout de l'autrice suisse Tasha Rumley. Il s'agit d'une saga familiale tout simplement passionnante, exhumée de milliers de correspondances retrouvées à la disparition de son oncle. Un oncle qui a connu une ascension sociale remarquable après avoir fréquenté l'austérité des internats suisses et crapahuté une partie de sa vie au Québec libre. C'est tout simplement bouleversant.
Bouleversant, donc selon vous, Une fissure en tout aux éditions Favre. Merci Alexandre. Un coup de gueule pour terminer ici à Bruxelles et pour le Canada, hein, Josiane Etourneau, vous êtes à moitié belge aujourd'hui, mais aussi québécoise.
Oui, vous l'avez dit, Emmanuel, je suis ici, mais même de l'autre côté de la flaque, j'apprends des choses. J'apprends en fait que, encore
de l'autre côté
une
de
fois,
quoi?
J'ai dit de l'autre côté de la flaque.
De la flaque.
C'est l'océan?
Ah!
Voilà! Bon!
Non, mais on n'avait pas su, vous avez suivi David?
Je ne savais pas qu'on appelait la
flaque. Non, mais non plus.
Moi, je l'appelle la flaque. La flaque.
Ok, c'est donc quoi? De l'autre côté de la flaque.
Alors, de l'autre côté de la flaque, j'apprends des choses, Emmanuel, et mes détecteurs, mes agents m'ont dit qu'encore une fois, dans le cas d'un titre récemment sous embargo, évidemment, le dernier Joël Dicker, notre grande chaîne préférée affichait sur leur site certaines informations qui pouvaient porter à confusion pour les acheteurs compulsifs, laissant entendre qu'ils l'avaient en stock alors que c'était faux. Et là, je suis sûre que même Joël serait outré.
Ah, il est outré, là. Il nous écoute chaque semaine. Ouais. On est tous outrés.
Je sais.
Non, mais c'est vrai que les livres arrivent, les livres d'Europe arrivent deux mois après, hein, au Québec. Donc, on peut pas les avoir quand ils sortent en France ou en Belgique ici.
Voilà.
Merci pour ce coup de gueule, Josiane. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. Merci beaucoup au public de Bruxelles, ici à distance, un peu loin de nous, mais qui est là quand même à la réalisation, Stéphane Combe, avec Jean-Christophe Olivier, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret, Christophe Magère de France Inter, avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, nous serons au Salon du Livre de Paris pour une autre émission en public avec un plateau prestigieux. Enregistrement vendredi 12 avril à 14h30. Avec Philippe Djian, Gaël Fay, Véronique Ovaldé et Daniela Ferrière, qui invitera un auteur ou une autrice du Québec, surprise, le Québec est l'invité d'honneur du salon. Bonne semaine, bon week-end. On termine cette rediffusion avec le bonus créole. Dans quelques minutes, il sera 2h en métropole, 20h en Guadeloupe. Le bonus créole en hommage à Maryse Condé avec Philippe Besson.
On adore Maryse Condé, qui est née en Guadeloupe, on le sait. Elle a étudié à Paris, elle a vécu en Afrique. On la connaît beaucoup grâce à Ses goûts, qui était un roman comme ça, en deux tomes, qui a connu un succès énorme au milieu des années 80. Mmh. Et elle a publié donc en 1989 un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Traversée de la mangrove », qu'elle écrit d'ailleurs alors qu'elle vient d'effectuer son retour au pays natal, d'une certaine manière. Et là, on est dans une veillée mortuaire. Hein. Il y a un type qui est mort, qui s'appelle Francis Sancher, qui a été retrouvé décédé la face enfouie dans la boue, dans une ville qui s'appelle Rivière-au-Sel, hein, sur Grande-Terre, en Guadeloupe. Et là, dans cette veillée funéraire, il y a une vingtaine de personnes qui, tour à tour, vont prendre la parole. Et certains ont aimé cet homme, beaucoup l'ont beaucoup moins aimé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça devient un roman choral où chacun exprime un point de vue, et exprimant ce point de vue, dit quelque chose de la société guadeloupéenne, évidemment. Parce qu'il y a aussi des anciennes rancœurs contre l'esclavagisme, contre le racisme, sur la couleur de peau, sur les sangs mêlés, etc. Sur les différentes identités qui peuplent l'île. Tout ça est raconté dans une écriture merveilleuse, hein, on le sait, très poétique. Moi, qui m'a profondément marqué. Et voilà, c'est aussi un roman végétal, parce que ça raconte la flore, la faune de cet endroit-là.
Oui, tout ce décor-là,
et,
oui.
Absolument. Et donc, je ne peux que vous conseiller de relire ou lire Traversée de la mangrove.
De Maryse Condé, paru en poche aux éditions Folio. À noter aussi que son dernier roman en date, L'Évangile du Nouveau Monde, sorti en 2021, est paru en poche aussi chez Pocket. Il faut lire Maryse Condé. On va terminer avec de la musique, justement, des Antilles. Vous connaissez la guadeloupéenne Cynthia Abraham ?
Non.
Eh bien, vous allez l'entendre. La voici. Merci Philippe Besson.
Merci à vous.
Écoutez, Monsieur Mende, qu'a joué fort nous l'aimer. Chantez son à Cala, va la voir.
Et...